Bonjour à tous, bienvenue sur les ondes de Radio Brume avec votre émission Sport Stadium que vous connaissez maintenant et qui s'est interrompue un petit moment et je suis très heureux de reprendre le cycle des émissions Stadium. En plus, avec l'actualité sportive du mois, c'était tout à fait donné. Et alors, vous le savez, Stadium, on parcourt l'actualité sportive à travers le regard d'un invité. Et aujourd'hui, c'est une invitée. J'ai l'honneur d'accueillir Mélina Robert-Michon. Bonjour.
Bonjour.
Mélina, donc vice-championne du monde de lancer du disque, c'était l'été dernier à Moscou. On va revenir sur cette belle victoire. Et alors, nous allons parcourir l'actualité du sport, votre parcours, vos passions, en trois étapes. Alors, j'ai toujours l'habitude de dire en trois étapes, en trois parties. Là, on va essayer de faire trois lancers, évidemment. La première partie, le premier lancer pour mieux vous connaître, un petit peu votre parcours, hein, du début jusqu'à cette belle victoire à Moscou. Dans la seconde partie, nous verrons un peu quelle est votre actualité et puis éventuellement vos projets d'avenir. Et enfin, dans la troisième partie, c'est un point qui m'intéresse beaucoup et qui intéresse beaucoup les auditeurs, c'est la partie historique, surtout sur des sports qui sont parfois pas forcément très médiatisés. Et nous évoquerons un petit peu ce point au cours de cette émission. Alors, je le rappelle, vice-championne du monde de lancer de disque. Alors, on va parcourir un petit peu cette vie, cette trajectoire avec les tout débuts en Isère. Vous êtes née à Voiron, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Et alors, je m'intéresse toujours à la manière dont les grands champions sont arrivés dans leur discipline. Comment ça s'est passé ? Est-ce que c'est un contexte familial ? Est-ce que c'est une rencontre ?
Alors, pas du tout un contexte familial. C'est vraiment une rencontre et un peu de hasard qui a fait que j'ai commencé. C'est mon prof de PS au collège qui m'avait conseillé de faire de l'athlétisme puisqu'on en avait fait un peu dans le cadre des cours et qui trouvait que j'avais des qualités pour ce sport. Donc, il m'a un petit peu, conseillé de m'inscrire dans un club. Donc, ce que j'ai un petit peu tardé à faire, parce que honnêtement, moi, je ne connaissais pas spécialement l'athlète et ça ne m'intéressait pas plus que ça. Donc, je me suis inscrite en rentrant au lycée et au club, il y avait un club à côté de mon lycée. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis, j'ai rencontré un entraîneur à ce moment-là qui a su me motiver déjà pour m'inscrire parce que lui, il me surveillait depuis un petit moment et il me relançait souvent pour que justement je m'inscrive dans le club. Et puis finalement, il a bien fait d'insister. Et je suis tombée dedans. Et après, ça a été une succession de rencontres. En fait, c'est mon prof de PS, cet entraîneur qui m'a fait commencer par un petit peu toutes les épreuves, un petit peu de poids. Et puis qui m'a présenté ensuite à un entraîneur de disque. Et puis voilà, c'est là que ça a été parti.
Et le disque, c'est vraiment détaché des autres
C'est vraiment une histoire de rencontre, c'est-à-dire que j'ai rencontré cet entraîneur sur Bourgoin-Jallieu qui a su me donner la passion de ce geste, de toute cette discipline. Et puis il y avait un petit groupe sympa, enfin voilà, ça s'est joué franchement à pas grand-chose. Le petit groupe a fait que j'ai eu envie, il y avait une bonne ambiance, j'ai eu envie d'y rester. Puis petit à petit, les performances sont arrivées et puis voilà, c'était parti.
Donc là, on vous évoquait le geste, effectivement. Quelles sont, alors peut-être pour les auditeurs, la technique, enfin, quelles sont les règles, tout simplement, sur le lancer du disque?
Alors, le but, c'est vraiment, on a un disque donc, de 1 kg pour les femmes et 2 kg pour les hommes. Et le but, c'est de le lancer le plus loin possible. Donc, souvent, sur les stades, vous voyez une cage de protection pour être sûr que la trajectoire ne soit pas trop décalée. Et après, voilà, le but, c'est de lancer le plus loin possible. Alors, on tourne, on fait un tour et demi.
Ça, c'est les règles, c'est un tour et demi ou ça peut être...
C'est les règles les plus utilisées. Après, il y en a d'autres qui peuvent faire, mais les meilleurs lancent tous à peu près de la même façon.
Donc, sur un tour et demi.
Voilà.
Et sur la tenue du disque, c'est à pleine main, comment on
tient?
Alors,
c'est vraiment du bout des doigts. On le tient vraiment du bout des doigts. Et le but, c'est de le tenir le moins possible. Et il va tenir tout seul, en fait, avec la force centrifuge quand on va tourner, justement. Et le faire tourner, donc il sort par l'index, et c'est le faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, en fait.
D'accord.
Voilà. Souvent, quand peut-être vous en avez fait au collège ou au lycée, souvent on en fait un petit peu. Ça a tendance à sortir par le petit doigt, mais ça doit sortir de l'autre côté.
D'accord. Et la matière du disque?
Alors c'est assez variable. Il y a une couronne souvent en métal. Et après, il y a deux parties qui sont assemblées, souvent en plastique, ou même des fois, ils ont essayé en alu, mais principalement en plastique.
D'accord. Et c'est le premier impact qui compte comme ensuite,
voilà, c'est voilà, la pour... premier, le premier endroit qui touche le sol.
D'accord.
Donc c'est là où, c'est à partir de là qu'on mesure. C'est pas le rebond, c'est pas voilà, c'est pas où le disque s'arrête. C'est vraiment la première fois qu'il touche le sol. Voilà.
Et est-ce qu'il y a des contestations sur les impacts? C'est plus tout à fait.
Ça peut arriver parce que c'est vrai que le disque, c'est pas surtout chez les femmes où il est pas très lourd. Il n'y a pas forcément de marque au sol. Donc des fois, les juges sont surtout dans les compétitions, les petites compétitions où les écarts entre les concurrents sont importants. Des fois, ils sont pas forcément bien placés pour voir exactement où ils tombent, mais dans l'ensemble, c'est quand même ça se voit assez facilement. Quand ouais. Même.
Et donc, on rappelle le poids pour les
1 kg pour les femmes et 2 pour les hommes.
Et 2 pour les hommes, d'accord. Donc, avec toute cette technique que vous avez développée, vous avez commencé à faire les championnats, les premières rencontres.
Oui.
J'avais noté à Annecy, c'est ça, le
championnat. Voilà, c'était mon premier championnat international chez les jeunes. Ça, c'est les juniors, donc c'est moins de 20 ans.
En 98.
98. Donc ça, ça a été vraiment... j'ai commencé en 95. Et donc voilà, ça a été ma première grosse compétition. Donc ça a été assez vite quand même.
Avec un bon résultat,
voilà, parce que vous avez terminé deuxième. Voilà, j'ai fait deuxième, donc c'est un bon souvenir, parce qu'en plus, c'était un petit peu presque à domicile, on va dire. Donc j'avais pu partager ça avec tous mes proches, toute ma famille, c'était assez sympa.
Et donc les choses s'enchaînent, avec assez rapidement les Jeux Olympiques, en réalité.
Voilà, ça a été assez vite, pour les premiers Jeux Olympiques, qui étaient à Sydney en 2000. Et avec une qualification un petit peu au dernier moment, puisque j'avais réalisé les minima la veille de la période de qualification. Donc, il a fallu que je passe en commission de sélection 3 semaines avant. Et voilà, on m'a dit, dans une semaine, tu pars au jeu. Et puis voilà, c'était parti. Donc, belle expérience.
Belle expérience. Et au final, vous avez fait 4 Jeux Olympiques
Pour l'instant, oui, j'en ai fait 4, voilà.
Ouais. Avec le projet de Rio, alors, sans doute.
Voilà, avec le projet, l'envie d'une 5e participation. Après, voilà, je me prépare pour, on verra, ça reste du sport, on ne maîtrise pas tout. Mais en tout cas, je fais tout pour y être.
D'accord. Et puis, alors, il y a eu aussi les Jeux méditerranéens. C'est intéressant parce qu'on parle beaucoup des Jeux olympiques, les championnats du monde, mais il y a aussi tout un tas de Jeux dits régionaux et les Jeux méditerranéens en font partie. Et là, c'était en 2009 à Pescaia, où vous avez terminé
première.
Voilà. Vous avez été championne
Donc, les Jeux de la Méditerranée, pour sinuer, c'est tous les pays qui donnent sur la Méditerranée, en fait, qui ont...
Avec une bordure.
Voilà, une bordure sur la Méditerranée. Donc, c'est des mini-Jeux olympiques, parce qu'il y a tous les sports. C'est vraiment le même principe que les Jeux olympiques. Il y a plusieurs sports. Et c'est tous en même temps. Donc, c'est un côté assez, assez sympa, un peu voilà, mini-jeux.
Ça permet, justement, parfois... Lorsqu'on commence les compétitions, à se rendre compte d'une dimension internationale.
Voilà, ça permet de mettre un pied dans les compétitions internationales. Et puis, suivant les disciplines, c'est des compétitions qui sont assez relevées. Suivant si les pays représentés ont des bons lanceurs pour moi. Et puis, c'est vraiment voilà, l'occasion de rencontrer d'autres sportifs aussi. Parce que c'est vrai qu'on est souvent entre athlètes. Et là, c'était l'occasion de voir un peu de judo et d'escrime, de hand aussi, un peu les sports co, les choses comme ça. Donc, c'est dans une ambiance en plus assez sympa. Donc, c'était un bon souvenir aussi.
Donc, ça, c'était en 2009.
Oui.
Et l'année d'après, un petit événement.
Voilà, 2010, j'avais fait le choix de faire une petite pause dans ma carrière pour avancer un petit peu dans ma vie personnelle et d'avoir un enfant.
Donc, ça, j'imagine, c'est à la fois, c'est sans doute des choses évidentes, mais quand même un questionnement pour
Bah forcément, pour la suite. C'est un choix qui n'est pas forcément facile à gérer parce qu'on fait une pause sans savoir si je pourrais revenir, si je reviendrais à mon meilleur niveau. Si, voilà, c'était, pour moi, je trouvais que c'était le bon moment et finalement, je ne regrette pas parce que je pense que ça a été un point très positif pour la suite de ma carrière.
Ça a boosté.
Voilà, ça m'a permis de prendre un petit peu de recul avec le sport, de faire un petit peu autre chose et de revenir avec de nouvelles ambitions, de nouveaux objectifs et puis avec un regard un petit peu différent. Et finalement, voilà, c'est encore meilleur, je pense.
D'accord. Et vous avez eu raison puisque l'année dernière à Moscou, donc vous avez été vice-championne du monde pour le lancer de disque. Alors, on va évoquer cette belle performance juste après la première pause musicale. Et c'est justement un petit clin d'œil à la Russie avec une des BO de James Bond, de John Barry, avec le thème de 007 que vous allez reconnaître, qui tout de suite sera suivi par Bon Baiser de Russie. Et voilà, Bon baiser de Russie, le thème évidemment de James Bond par John Barry. Donc on reste en Russie avec cette belle prouesse que vous avez effectuée l'été dernier à Moscou, qui vous a valu la médaille d'argent au championnat du monde. Comment est-ce que vous avez appréhendé cette compétition parce que voilà, c'est jamais simple. Et comment, enfin, dans quel état d'esprit vous étiez au tout début de la compétition?
bon état d'esprit, j'étais bien, je savais que la forme était là, j'avais fait un bon stage de préparation juste avant. Donc voilà, je savais que j'étais en forme, je savais que j'avais un bon coup à jouer. Et puis voilà, je savais depuis le début de la saison que j'avais annoncé que je voulais faire une médaille. Donc je savais qu'il fallait faire une grosse performance, qu'il fallait que je m'approche de mon record pour y arriver. Donc voilà, je me sentais prête en tout cas.
Et le résultat était là, puisque 66 mètres 28, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Et là, pour le coup, vous avez même battu le record de France. Voilà. Donc là, c'est quand même une belle prouesse.
Voilà, c'était un petit peu la cerise sur le gâteau, on va dire, la médaille plus le record. C'était voilà, le top du top.
Bon, et dans quelle ambiance, parce qu'on parle beaucoup de la Russie en ce moment, évidemment, vous n'êtes pas à Sotchi aujourd'hui, mais... L'été dernier, dans quelle était l'atmosphère aussi de ces championnats du monde ? Est-ce que vous avez senti des lourdeurs, des...
Moi, j'étais un peu déçue de l'ambiance. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas beaucoup de monde dans le stade par rapport aux championnats qui avaient lieu ailleurs. C'est vrai que c'est assez compliqué en fait, d'aller en Russie. J'ai pu le voir pour mon entraîneur et pour mon compagnon qui ont mis assez longtemps pour avoir leur visa. Enfin, il y a pas mal un côté administratif qui est assez lourd et du coup qui a découragé pas mal de passionnés d'athlètes qui habituellement vont sur tous les championnats. Et voilà. Donc du coup, ce côté un peu fermé a fait qu'il y avait pratiquement assez peu d'étrangers dans le stade et assez peu de Russes aussi. Donc finalement, pas beaucoup, beaucoup de monde. Et c'est dommage parce que habituellement, les épreuves d'athlètes, c'est toujours des grands moments. Donc voilà, je trouvais que ça manquait un petit peu d'ambiance. Après, pour le reste de la ville, du pays, je n'ai pas beaucoup eu le temps de visiter. Donc je ne peux pas trop vous en dire plus là-dessus.
Et là, vous suivez un petit peu les JO d'hiver ?
Ah oui, moi je suis à fond, je suis supportrice. Je suis assez chauvine, quoi. Moi, je ne suis pas vraiment supportrice du sport, je suis supportrice des Français.
Et si vous aviez dû faire un sport d'hiver, ce serait lequel ?
Ça aurait été plus le ski alpin, je pense, parce que j'aime ce qui va vite. J'aime, c'est l'effort, l'explosivité, un peu tout ça, pas trop. Tout ce qui est ski de fond, tout ce qui dure longtemps, c'est pas trop mon truc.
D'accord, donc plutôt ski...
Voilà, ce serait plutôt la descente, la vitesse, les choses comme ça, c'est des trucs qui me plaisent assez.
D'accord, vous avez vu la cérémonie d'ouverture ?
Non, j'ai pas pu voir la cérémonie d'ouverture, mais c'est vrai que dès que je peux, j'ai vu la médaille de Martin Fourcade, c'est vrai que c'était un super moment, et puis il avait été déçu par sa première course et ça a été une belle réaction de sa part. Et puis, il a vraiment dominé de bout en bout cette course et c'est assez, ça a été assez impressionnant de voir la façon dont il a géré tout ça.
Et vous qui avez vécu quand même 4 Jeux Olympiques, ce qui est déjà pas mal, même ça devient même rare pour les athlètes. Est-ce que vous avez une édition particulière qui vous reste dans le cœur, enfin quelque chose qui...
Chaque jeu, ça a été différent, en fait, avec un souvenir particulier. C'est vrai que Sydney, c'était les premiers.
C'est vrai qu'on est... beaucoup d'athlètes disent les premiers, on est noyé dans un truc gigantesque, on est un peu perdu.
Est-ce que c'était complètement ça. C'est, il n'y avait pas longtemps que je pratiquais l'athlète, je me suis retrouvée vraiment dans un stade plein, il était 8h du matin pour les qualifications, le stade était plein et puis vraiment à fond derrière les athlètes, donc ça a été assez surprenant et du coup on se retrouve assez vite spectateur de l'événement quand on arrive comme ça, voilà, qu'on n'est pas très bien préparé et j'étais assez jeune, donc du coup c'est vrai que ça a été assez, un grand moment, mais pas dedans sportivement, on va dire. J'étais vraiment plus là, spectatrice de cet événement, de dire waouh, où je suis et dans quel truc il m'arrive, quoi. C'était un petit peu, Mais malgré tout, c'est un bon souvenir parce que justement, pendant 15 jours, vraiment, on vit dans un monde un petit peu parallèle. Donc, c'est un truc que je souhaite à tout sportif de pouvoir vivre un jour.
Ouais, un beau moment. Et donc, on l'évoquait un petit peu tout à l'heure, la perspective des prochains Jeux Olympiques, donc c'est à Rio.
Oui.
Et avant, est-ce qu'il y a d'autres échéances qui vous sont chères ?
Oui, donc cette année, on a les championnats d'Europe qui ont lieu à Zurich au mois d'août.
Oui.
L'année prochaine, les championnats du monde qui auront lieu à Pékin. Et en 2016, les Jeux qui auront lieu à Rio.
D'accord. Donc,
Des années bien chargées en perspective.
Bon. Alors, au-delà des médailles, vous avez remporté encore pas mal de choses, hein, au-delà de la médaille d'argent l'année dernière, puisque l'année dernière, vous avez été élue athlète féminine de l'année, rien que ça, hein, oui. Par les internautes de la Fédération française d'athlétisme. Donc, ça, c'était fin 2013.
Voilà.
Et puis, tout récemment, 2014, et là, on se rattache à la ville de Lyon, vous avez obtenu le Lion d'or. Du sport de la ville. Donc, alors, ce sont des récompenses différentes d'une médaille, mais c'est une autre forme de récompense. Est-ce que vous y êtes sensible ?
Ah bah forcément, en plus, c'est deux récompenses complètement différentes. La première, vraiment par le monde de l'athlétisme, j'ai envie de dire, par mes pairs un petit peu. Donc, ça fait plaisir de mettre en avant ma discipline et tout ça. Et après, la récompense du Lion d'Or, c'est vrai que c'était... Ça avait une signification un petit peu particulière parce que c'est ma ville, c'est ici que je suis depuis longtemps. Et puis, d'être un petit peu devant le foot aussi, parce que je crois que ça fait 10 éditions et je crois qu'il n'y a que deux fois où ce n'est pas le foot qui a gagné. Donc, c'était une certaine fierté. En plus, un sport individuel, voilà, c'était une grande fierté. Et puis, du coup, de mesurer du coup, l'importance qu'avait eu ma performance, de me dire que ça avait quand même marqué beaucoup les gens aussi.
C'est sûr. Et il y avait aussi cette actualité. Donc, du coup, à la fois, on valorisait votre discipline et puis le fait que ce soit une femme aussi.
Oui, voilà, c'était le côté un clin d'œil. Déjà, l'année d'avant, il y avait eu Wendy Renard qui l'avait eu.
Qui était très heureuse que ce soit encore vous, encore une femme.
Voilà, voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment très gentil et qui était contente que je lui succède. Donc, c'était vraiment avec plaisir. Puis, ça tombait juste avant, justement, les 24 heures du sport féminin qui avait été organisé par le ministère des Sports. Et du coup, voilà, ça tombait bien. Et puis, c'est vrai que je pense qu'à Lyon, on est quand même... un petit peu en avance avec tout ça. On a la chance d'avoir une équipe de basket, une équipe de foot qui tourne bien. Et voilà, c'est bien de les mettre aussi en avant.
Et justement, vous évoquiez les 24 heures du sport féminin. C'était le 1er février, au tout début du mois. Mm-hmm. L'idée, c'était de mettre en avant justement les sportives mm-hmm. à la télé et dans différents médias. Et comment vous jugez ou comment vous... quelles sont les explications, les facteurs qui font que ça reste difficile d'avoir cette visibilité-là ?
C'est vrai que j'ai pas vraiment.
Alors qu'il y a des belles performances. Voilà,
c'est vrai
féminines.
Que moi-même, au cours du week-end, j'ai découvert le rugby féminin que je connaissais assez peu. J'ai pu assister au match France-Angleterre et j'ai été surprise vraiment du beau match qu'elles ont fait, de la qualité du jeu qu'elles ont produit. Donc. Ça, moi-même, je me suis dit, j'ai découvert quelque chose, donc j'espère que ça a été le cas pour d'autres personnes. Après, pourquoi on ne le met pas plus en avant, j'avoue que je n'ai pas vraiment d'explication. Après, c'est le cercle vicieux. Est-ce que c'est on ne connaît pas parce qu'on n'en voit pas et on n'en voit pas parce qu'on... Enfin, voilà, est-ce que du coup, les gens ne regardent pas parce qu'ils ne connaissent pas par où commencer c'est des fois un petit peu compliqué. Mais j'espère en tout cas que ça a permis de déclencher un petit peu des vocations, ne serait-ce que chez les filles, pour avoir aussi encore plus de participants, et aussi chez les spectateurs, pour se dire c'est vraiment du beau spectacle et ça vaut autant, aussi bien un match d'hommes que de...
Que de femmes, oui, il n'y a aucune raison.
Voilà, En plus, c'est vrai que moi, je suis dans un sport où j'ai du mal à concevoir qu'il puisse y avoir des différences, parce que nous, on pratique hommes-femmes tous en même temps, en fait. Le championnat du monde, c'est pour les hommes et les femmes en même temps. Et du coup, c'est vrai que ça me fait bizarre de voir que sur certains sports, on parle beaucoup plus des hommes que des femmes.
Il y a un vrai décalage, effectivement.
Voilà. C'est vrai que moi, j'ai la chance de venir d'un sport où on est tous mélangés et on ne se pose même pas la question, en fait. Donc, ça serait bien si ça pouvait être de partout comme ça.
Bon, c'est grâce aux femmes de caractère, justement, qui donnent justement cet élan, cette impulsion, qu'effectivement, il y ait cette visibilité. Et justement, la transition est toute trouvée avec la deuxième pause musicale avec une autre femme de caractère, qui est PG Hervey, qui a sorti dans son album Dry une musique que je vous dédicace, qui s'appelle Victory. Tout de suite, PG Hervey.
Storm is gone.
de retour dans le stadium avec Mélina. Je tiens à remercier d'ailleurs Philippe, juste parenthèse, Philippe que vous connaissez sur les ondes de Radio Brume, qui m'a aidé sur les choix musicaux. Et vous pouvez retrouver Philippe dans son émission Emily Kane tous les mardis à 21h. Voilà, c'était de la promotion interne. Retour donc avec Mélina. Pour parler de votre discipline, et effectivement, c'est quand même une discipline mythique, ancrée avec l'histoire de l'homme, puisqu'elle est presque aussi vieille que l'humanité, avec des traces
Dans l'Antiquité.
Vous connaissez un petit peu toute son histoire ?
Pas beaucoup, à part la statue du Disco Ball, je pense que chacun connaît. Je sais que voilà, il y avait, c'était des jeux antiques à l'époque, et... qu'ils avaient le but de lancer. Alors, à l'époque, c'était une grosse pierre, si je me rappelle bien. Donc, voilà, c'est à peu près tout ce que je sais.
Et d'ailleurs, sur la statue du Disco Ball que vous évoquez, il y a toute une polémique sur la position, sur le fait que ce soit une position, en fait, intenable athlétiquement.
Oui, parce qu'en fait, comment expliquer, il est en position un peu à l'amble, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que quand vous marchez, vous avez le bras gauche qui avance en même temps que la jambe droite. Et voilà, vous fonctionnez comme ça. Et là, en fait, la statue, c'est un petit peu l'inverse. Donc, c'est pour ça que des fois, ça... Voilà. Après, c'est une représentation. Donc, il n'y a pas...
Et aussi, alors, il y a beaucoup d'interrogations, parce qu'on a retrouvé différentes versions du disque antique, sur la taille des disques. Et quand on voit les représentations, soit sur les vases peints ou même sur certaines sculptures, on voit le disque qui prend à peu près la dimension de tout l'avant-bras. Et donc voilà, donc il y a un petit peu cette interrogation.
Voilà, je pense qu'à l'époque, c'était vraiment des pierres en fait qui lançaient. Donc je pense que c'était assez lourd, beaucoup plus lourd que ça l'est maintenant. Et puis voilà, bah après, ils prenaient un peu ce qu'ils avaient aussi. Donc je pense que les pierres, c'était plus facile à trouver. Et...
Ouais, alors c'est vrai que les origines, c'était effectivement avec les pierres. De toute façon, les disciplines grecques, en tout cas athlétiques, étaient souvent liées à ce qu'on appelle le concept d'agon, qui est le combat, qui est lié à la guerre, tout simplement, à un affrontement. Agon, ça donnait agonie, voilà, donc il y a vraiment cette idée-là, et c'était une idée, un concept fondamental chez les Grecs. Et effectivement, donc au début, il y avait ce lien, finalement, le lancer est vraiment l'héritier du lancer de pierre. Parfois même aussi pour lancer des messages, hein, c'était un moyen de communication. Donc on a un certain nombre de textes là-dessus, notamment Homère avec l'Iliade et l'Odyssée qui nous offre des textes assez fabuleux sur les origines de cette discipline. Et quant aux Jeux olympiques antiques, qui se sont donc déroulés à Olympie, effectivement, le lancer de disque, c'est... entre guillemets sophistiqué, puisque souvent, là, on a retrouvé des disques en bronze qui étaient lancés. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le lancer de disque faisait partie de ce qu'on appelait le pentathlon dans la compétition à Olympie, qui comprenait donc les 5 disciplines. Le disque, souvent, on commençait par le disque, en général. Ensuite, le javelot, puis le saut, la course et la lutte. Et l'idée, c'était que le premier athlète qui avait au moins 3 victoires sur l'ensemble de ces disciplines était sacré champion olympique. Et je rappelle, il n'y avait pas de deuxième à l'époque, il n'y avait vraiment qu'un seul vainqueur, effectivement. Et alors, pour ceux qui veulent aller plus loin, peut-être que je vais citer justement Homère. J'évoquais ce beau passage dans le chant 23 de l'Iliade, où en fait c'est l'hommage à Practole qui vient de mourir. Donc on organisait un certain nombre de jeux. Voilà, une citation de cette discipline qui date d'il y a plusieurs millénaires. Alors déjà, ils étaient en ligne. Le divin Épaios prend le disque. Il le fait tournoyer, il le lance. Et tous les Achéens éclata de rire. Donc, sous-entendu, il avait loupé son lancer. Mais ça arrive. Ça arrivait
ça
déjà.
Toujours, hein.
Ça arrive toujours. Et ça partait pas dans les filets comme aujourd'hui. Voilà. Il n'y en avait pas. Mais
c'est peut-être plus dangereux.
Bref, après lui, Léontée, rejeton d'Arès, le lance également. Le troisième, à son tour, voici qu'il le jette de sa main vigoureuse. Le grand Ajax, le fils de Télamon. Il dépasse les marques des autres. Mais quand le belliqueux Polypoétès, après lui, prend le bloc, aussi loin va le bouvier en lançant son bâton, qui s'envole en tournoyant à travers toutes les vagues du troupeau, aussi loin va-t-il, dépassant tous ses concurrents. Alors ce n'est qu'un cri, les amis de Polypoétès, le fort se lèvent, ils emportent aux nefs creuses le prix gagné de leur roi. » Donc voilà, le vainqueur. C'était un des premiers gagnants du concours du disque. Donc effectivement, on a beaucoup de textes comme ça.
Il y a eu pas mal d'évolutions. Il y a eu une période où il dansait le bras droit et le bras gauche et il faisait le cumul des deux, en fait. Et celui qui gagnait était celui qui avait le meilleur cumul des deux.
D'accord. Donc, aussi, c'est le premier impact qui comptait déjà dans l'Antiquité. Alors, c'était
avec la pierre, je pense que c'était plus facile à trouver.
Vous avez visité le site d'Olympie ?
Non, j'ai pas eu cette chance.
Bon, alors peut-être
pas pour l'instant, peut-être
une prochaine fois, ouais. Alors ça, c'était pour l'Antiquité. Pour parler de notre époque, il y a une grande championne. Je ne sais pas si elle vous a servi de modèle. Je veux bien entendu parler de Micheline Ostermeyer. Est-ce que vous voulez dire deux mots sur cette personnalité?
J'en ai beaucoup entendu parler. C'est vrai que je n'ai jamais eu l'occasion de la rencontrer, malheureusement.
Parce qu'elle est décédée en 2001.
Voilà. Et ça a été la première médaillée olympique, première championne olympique même de l'histoire du disque féminin. Donc souvent, on m'en parle, on compare un petit peu à ce qu'elle avait pu faire. Et c'est vrai que c'était une autre époque. Mais elle avait vraiment marqué sa discipline, notre discipline. Et puis, elle était devenue par la suite une très grande pianiste.
Effectivement, elle avait même commencé pianiste. Ensuite, elle a fait toutes ses compétitions. Et alors, la médaille que vous évoquez, en réalité, elle en a eu trois. Aux mêmes Jeux olympiques, c'était aux JO de Londres en 1948, dont l'immédiate après-guerre, où effectivement, elle a eu l'or pour le lancer de disque. Mais elle a également eu... pour le lancer de poids et puis pour le saut en hauteur. Elle a eu donc 3 médailles pour cette édition, ce qui est assez exceptionnel. Mmh. Et c'est vrai que sa singularité, on dit toujours que 3 semaines avant les JO, elle n'avait jamais lancé de disque. Ça, c'est pour la petite histoire.
C'est vrai que c'était un autre temps. Après, je pense qu'elle avait des qualités physiques évidentes et qui lui ont servi après pour le disque. Donc, elle a appris quelques bases techniques. Et puis, le fait qu'elle avait quand même un physique déjà bien travaillé par rapport aux autres disciplines, je pense que c'est ce qui a fait la différence.
Et effectivement, vous citiez sa grande passion pour le piano. Premier prix de conservatoire avant toutes ses médailles. Et puis, c'est vrai qu'après, elle est retournée dans la musique. Elle s'est éloignée du sport et pour se consacrer totalement à la musique. Et quelques temps après son décès, donc en 2001, il y a eu un trophée qui a été créé. Le trophée Micheline Ostermeyer qui récompense justement des athlètes de haut niveau qui ont également eu une grande carrière dans une autre discipline. Donc pour le coup, elle, c'était la musique. Mais pour citer un exemple, il y a Alain Calma, donc le grand patineur, qui a fait une grande carrière, lui, dans la médecine, tout ce qui est intervention chirurgicale vis-à-vis du cœur, hein, puisqu'il a eu une réputation internationale, qui a reçu aussi ce prix. Donc voilà, c'est le petit clin d'œil sur cette grande athlète complète, véritablement complète. Et pour l'évolution de la discipline aussi, il y a quelque chose en préparant l'émission qui m'a un peu frappé sur les records, les lancers. Alors on voit, alors j'ai noté dans les années 80, d'ailleurs en 88, un record pour les femmes, hein, je parle. On était à 76,80 mètres, oui,
c'est ça.
Et aujourd'hui, si je regarde, c'est autour de 70 mètres.
Alors pour expliquer un petit peu la raison, c'est à l'époque de l'Allemagne de l'Est. Et de tous les pays un petit peu qui avaient une politique de dopage pratiquement institutionnalisée. Donc on se retrouvait avec des femmes qui n'étaient pratiquement plus des femmes et qui lançaient forcément des distances qui étaient assez impressionnantes, parce que si vous ne faisiez pas 70 mètres à cette époque-là, vous n'étiez même pas qualifié sur les grands championnats. Depuis, il y a eu une vraie politique antidopage qui a été menée et il y a vraiment eu une évolution par rapport aux performances. C'est vrai qu'on peut remarquer depuis maintenant une bonne dizaine d'années qu'il n'y a pas une fille qui a fait 70 mètres. Donc les meilleures sont entre 68 et 69 suivant les années. Donc là, je pense qu'on est redevenu sur un niveau de performance plus féminin et plus humain, donc, et plus propre surtout. Donc voilà, il n'y a jamais eu vraiment... De contrôle positif, donc pas vu, vraiment pas pris, mais il y a vraiment eu... on voit vraiment la différence sur les gabarits des femmes et sur les performances surtout. À un moment, la Fédération internationale s'était posé la question de justement changer le poids de l'engin pour remettre un petit peu à zéro ces records. Il y a d'autres disciplines où c'est un petit peu le cas aussi et qui... on se retrouve avec des records du monde qui sont complètement infaisables.
Bon, alors, on arrive à la fin de l'émission déjà. Alors, comme vous le savez, il y a un petit rituel, un double rituel même, la chronologie olympique. Donc, Mélina, je vous ai donné une liste, la liste des Jeux olympiques d'été et d'hiver. Et je vous ai demandé de choisir une édition parce que c'est un coup de cœur, parce que c'est un rapport avec votre vie ou parce que voilà, c'est un clin d'œil. Quelle date, quelle ville avez-vous choisi?
Et ben pour revenir un petit peu à Micheline Ostermayer, c'est 1948, les Jeux de Londres, parce que donc Micheline Ostermayer avait gagné. Et la troisième était aussi une Française qui s'appelait Jacqueline Mazéas, que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Et qui m'a expliqué un petit peu comment étaient les Jeux à cette époque-là. Et j'ai trouvé ça vraiment impressionnant, parce que c'était vraiment l'après-guerre. Alors, elle m'expliquait qu'ils étaient partis avec toute la nourriture qu'ils avaient besoin, avec tout ça, parce que sur place, il n'y avait pas ce qu'il fallait. Enfin, voilà, j'avais vécu un moment, quand elle m'a raconté voilà, son histoire, son vécu, vraiment, j'avais passé un super moment. Et je m'étais dit, c'est vrai que c'était vraiment un autre monde. C'était vraiment l'après-guerre, voilà, les ravitaillements, les choses comme ça. Elle m'expliquait comment ça marchait. C'était assez impressionnant.
Et la photo olympique, la photo qui n'est pas forcément olympique, c'est une photo sportive. Parmi une centaine de photos, vous avez choisi...
Donc, j'ai choisi une photo d'escrime. Donc, ce n'est pas vraiment par rapport au sport. C'est plus par rapport à l'émotion dégagée par cette photo, j'ai envie de dire, c'est on voit donc une escrimeuse qui a gagné les bras en l'air et qui jette un petit peu tout son matériel avec vraiment, on voit le lâcher complet en fait, c'est-à-dire que là il y a rien de calculé, c'est vraiment l'émotion de la victoire avec tout ce que ça implique. Je trouve que cette photo dégage vraiment la puissance de la victoire et de l'émotion que ça peut procurer en fait.
Alors, pour le petit clin d'œil, si les auditeurs se souviennent, Yann Kuchera avait également sélectionné cette image. Donc, c'est assez rigolo de retrouver...
Mais je trouve que c'est, voilà, vraiment, ça symbolise la victoire. Il n'y a rien de réfléchi dans tout ça. Et c'est vraiment la joie, on voit la joie, le bonheur que ça peut procurer.
Bon, en tout cas, tout ce que j'espère, c'est qu'il y ait cette victoire et cette joie sur votre visage.
Je l'espère aussi.
En tout cas, pour les trois prochaines années encore, jusqu'à Rio. Et en tout cas, on suivra avec attention vos différents parcours. Mélina, Robert Michon, je vous remercie encore pour votre présence.
De rien, merci à vous.
L'émission se termine et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Stadium. Au revoir.
Au revoir.